VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Actualité américaine tout d'abord. Au moment où Cleveland, l'État d'Ohio, se prépare à la convention du Parti républicain qui doit introniser Donald Trump, candidat à la présidence, des conservateurs ont lancé une ultime tentative pour empêcher sa nomination en exhortant les délégués à voter en conscience. Les militants anti-Trump vont d'abord chercher à changer ce jeudi les règles du parti pour délivrer la majorité des délégués de leur obligation de voter pour le candidat victorieux aux primaires de leur État. Si les insurgés parviennent à obtenir le soutien de 28 délégués parmi les 112 membres de la commission de règlement du parti qui se réunit aujourd'hui, ils obtiendront un rapport de minorité qui sera soumis au vote de la convention prévu de lundi à jeudi prochain dans la capitale de l'Ohio. Les organisateurs de cette ultime manœuvre anti-Trump, comme Regina Thompson, cofondatrice du mouvement Free the Delegates, libérer les délégués, assurent que le vent souffle en leur faveur, mais les observateurs doutent que cette tentative aboutisse à un succès alors que les 16 autres candidats républicains à la Maison-Blanche n'ont pas réussi à battre Donald Trump. Actualité américaine toujours, les États-Unis vont proposer à la Russie une coopération militaire en Syrie contre les groupes djihadistes État islamique et Al-Nusra, la branche locale d'Al-Qaïda. Cette information révélée ce jeudi par le Washington Post coïncide avec la visite du chef de la diplomatie américaine John Kerry en Russie, John Lindon.
Le secrétaire d'État américain John Kerry n'a pas démenti cette information, mais a refusé de fournir plus de détails. En visite à Moscou, le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer ce soir Vladimir Poutine, le président russe. Selon le Washington Post, qui cite des passages tirés d'un projet d'accord, l'idée des Américains serait d'établir un centre de commandement commun pour diriger une offensive aérienne contre les djihadistes. Les Russes prêtent main forte au régime de Bachar al-Assad, alors que la coalition internationale menée par les Américains concentre ses efforts sur le groupe État islamique. Tout accord entre Washington et Moscou pourrait être perçu comme une approbation au maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Pour Dmitri Peskov, porte-parole du président russe, la lutte contre le terrorisme en Syrie et dans les États voisins ne peut être faite que de manière conjointe.
Afrique maintenant, au Soudan du Sud, accalmie à Djouba, la capitale, après le cessez-le-feu décrété par le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar lundi soir. L'évacuation des ressortissants étrangers s'organise. L'armée ougandaise a envoyé une mission sur place pour évacuer ses citoyens. Les précisions avec Arzuma Compaoré.
Un convoi militaire ougandais de quelques 2000 hommes lourdement armés a traversé la frontière pour sécuriser la route menant à Djouba. Pour le chef d'état-major de l'armée de terre ougandaise, Léopold Nkanda, c'est pour évacuer 3000 Ougandais bloqués par les combats. Il a indiqué toutefois être disposé à évacuer quiconque souhaite partir et quelle que soit sa nationalité. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, environ 20 000 personnes veulent quitter le pays. Les États-Unis ont déployé quelques 40 soldats pour protéger l'ambassade américaine à Djouba et aider à l'évacuation du personnel non essentiel. Le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé son rival Riek Machar au dialogue pour sauver le processus de paix. Le cessez-le-feu est toujours respecté, mais l'ONU craint une reprise des combats. L'Union africaine, qui tient un sommet à partir de dimanche au Rwanda, reviendra certainement sur la crise au Sud-Soudan.
Le président du Soudan, Omar al-Béchir, recherché par la Cour pénale internationale, est le bienvenu au Rwanda, où l'Union africaine l'a invité à participer à son 27e sommet à partir de dimanche. Le point avec Idriss Fall.
En marge des réunions préparatoires du sommet qui commence dimanche à Kigali, Louise Moutikiwabo, chef de la diplomatie rwandaise, a affirmé clair et net « Le Rwanda n'a pas ratifié le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, et n'a donc aucune obligation ni droit d'arrêter le président soudanais ». Elle a même qualifié de distraction la demande faite il y a deux jours par la CPI pour que Kigali arrête Omar el-Béchir. Elle a ajouté sans équivoque, quiconque invité par l'Union africaine à Kigali sera bienvenu et sera sous la protection du Rwanda. Selon Mme Moutikiwabo, la question d'un éventuel retrait des pays africains de la CPI est au menu des discussions du sommet. L'Union africaine accuse ce tribunal de viser injustement les Africains. Omar al-Béchir a effectué récemment des visites en Ouganda et à Djibouti pour assister à des cérémonies d'investiture mardi. La CPI a jugé que ces deux pays ont manqué à leurs obligations et a donc décidé d'en référer à l'ONU pour, je cite, « défaut d'exécution ».
En RDC, appel du chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place en faveur de la réduction des tensions politiques à l'approche de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Maman Sidikou a invité les autorités congolaises à décrisper la situation pour créer les conditions favorables au dialogue politique et il a demandé à l'opposition de ne pas attiser les tensions en faisant preuve de responsabilité dans l'exercice des droits et des libertés pour éviter au pays de plonger dans une violence aux conséquences désastreuses. Et puis au Cameroun, selon Amnesty International, plus de 1000 personnes sont détenues dans des conditions épouvantables et plusieurs dizaines sont mortes dans la répression menée par les forces de sécurité contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, arrestation de deux militaires pour ne pas avoir dénoncé des membres présumés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui ont tué 19 personnes lors de l'attaque contre Grand Bassam en mars. Selon le colonel Ange Kessy, le procureur militaire ivoirien, les prévenus ne sont pas accusés de participation à l'attaque, mais ils connaissaient certains membres de l'équipe qui a mené l'opération et n'en ont pas informé leur supérieur hiérarchique, ce qui est une infraction grave du code militaire ivoirien. Les deux militaires seront jugés à la fin août, a souligné le colonel Kessy. Le président du Burkina Faso est attendu en Côte d'Ivoire à la fin du mois. Ce sera la première visite de Marc Christian Kabore en tant que président. Cette visite entre dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les détails avec Rabanki Aboubakr Zida, directeur général des éditions Citoyen au Burkina Faso, au micro de John Lyndon.
Au-delà des États, au-delà des frontières, chaque jour, il y a des dizaines, sinon des centaines de camions, de cars qui quittent le Burkina pour la Côte d'Ivoire. Chaque jour, il y a le train qui circule entre les deux pays. Chaque jour, il y a des vols, des compagnies aériennes qui amènent des centaines de Burkinabés en Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc, ça veut dire qu'au-delà de tout ce qui se passe, de tout ce que les gens voient, les populations, de façon pragmatique, sont en contact. Ils font des échanges et ils travaillent ensemble, surtout dans le cadre de moi, des entreprises burkinabées qui interviennent en Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes qui interviennent au Burkina. Je pense que quand on est à une certaine distance, les gens pensent que les choses sont figées et que voilà, il n'y a pas de contact entre les deux pays. C'est totalement faux. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, j'insiste là-dessus, les populations sont en contact et la vie continue de parler d'autres comme si de rien n'était.
Rabanki Aboubakr Zida, directeur général des éditions Citoyen au Burkina Faso. À Gao, dans le nord du Mali, une délégation gouvernementale est sur place pour essayer de ramener le calme après les manifestations de jeunes qui ont fait 4 morts et plusieurs blessés. Les jeunes sont encore sortis hier pour la deuxième journée consécutive pour protester contre les autorités intérimaires et le programme de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion prévu dans les accords de paix issus du processus d'Alger. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire persiste et signe. La cheville ouvrière du mouvement de contestation sociale appelle à la poursuite de la grève générale au lendemain de sa libération, Michel Joseph.
Dans une nouvelle vidéo postée sur Facebook, le révérend Mawarire exhorte ses compatriotes à mobiliser leurs proches par des SMS et des messages sur WhatsApp en faveur de la grève générale. Envoyons un message clair à notre gouvernement que trop, c'est trop. N'oubliez pas de prier pour le Zimbabwe, dit-il notamment dans son message. Le pasteur de 39 ans a lancé son appel quelques heures après sa libération, mercredi. Le juge a refusé sa détention, estimant que la police n'a pas respecté la procédure. Le parquet l'accusait de tentative de renversement du gouvernement, mais la police ne lui avait pas notifié ses charges. Peu connu par les Zimbabwéens il y a encore quelques mois, Evan Mawarire dénonce les maux dont souffre son pays, notamment la corruption, l'injustice et la pauvreté. Il se sert des réseaux sociaux pour mobiliser les mécontents. La grève générale à laquelle il avait appelé le 6 juillet avait été bien suivie. Toutefois, le mouvement a moins réussi mercredi et jeudi à Harare.
Et pour terminer, le président américain Barack Obama a téléphoné aujourd'hui à la nouvelle première ministre britannique Theresa May pour la féliciter et réaffirmer son attachement à la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.